On écoute facile.
On écoute facile.
Una facile ascolta.
On écoute facile.
Ça ascolte, c'est au show.
Französisch leicht
Kalimera. Matheno, que Milao, Gallica.
Yes, I would like to speak easily in French.
Apprenez le français.
Hadit se volbim limba francese.
Let's learn French together.
Parles-tu français?
Parles-tu français?
Parle francese.
Je veux parler facilement le français.
Quelle chance de parler facilement le français.
Französisch auf leichte Weise. On écoute facile.
Sur Canal Academy, un espace dédié à l'apprentissage du français, on retrouve Daniel Jeanne et Virginia Crespo.
Bonjour Virginia.
Bonjour Daniel.
Dans cette nouvelle émission des hauts lieux des académiciens, nous évoquerons l'Algérie au travers de l'œuvre d'une femme algérienne, musulmane et académicienne. Il s'agit d'Assia Djebbar.
Oui Daniel, Assia Djebbar, c'est son nom de romancière. Elle s'appelle en fait Fatma Zohra Himalayenne. Elle est née en 1936 à Cherchel, à environ 150 km à l'ouest d'Alger. Cette ville, l'ancienne Césarée de Maurétanie, célèbre pour ses mosaïques, est bâtie entre la mer et des collines couvertes de vignes. Le père d'Assia Djebbar était instituteur, issu de l'école normale musulmane d'instituteurs de Bouzaria. Sa mère, Baya Sarawi, appartenait à une famille berbère du Dara. Avec l'accord de son père, Fatma Zohra Himalayenne fait des études françaises classiques en Algérie, puis à Paris. En 1955, elle entre à l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, où elle étudie l'histoire. La guerre d'indépendance d'Algérie, on disait à l'époque les événements d'Algérie, débute le 1er novembre 1954. Assia Djebbar publie son premier roman, « La soif », en 1957. Elle a 21 ans. Elle se consacre ensuite, pendant de longues années, à l'enseignement, au théâtre et au cinéma. Elle fera de nombreux allers-retours entre la France, l'Algérie et le Maghreb. Actuellement, Assia Djebbar enseigne la littérature française à l'Université de New York.
Oui, Assia Djebbar écrit en français et elle tente de se dire dans l'entrebâillement entre trois langues, le français et ses deux langues ancestrales, le berbère et l'arabe. Elle ajoute que son français, doublé par le velours, mais aussi par les épines des langues autrefois occultées, cicatrisera ses blessures mémorielles. Son œuvre, traduite en 24 langues, est couronnée de nombreux prix, surtout à l'étranger. En 2000, elle reçoit le prix de la paix, décerné en Allemagne aux auteurs les plus prestigieux. Enfin, en 2005, elle est élue à l'Académie française. Elle affirme que le français est pour elle presque une seconde peau. Écoutons-la dans un extrait du discours qu'elle prononce lors de sa réception à l'Académie française.
Une langue en mouvement, une langue rythmée par moi pour me dire, ou pour dire que je ne savais pas me dire. Sinon, hélas, dans parfois la blessure, sinon dans l'entrebâillement entre deux, non, entre trois langues, et dans ce triangle irrégulier, sur des niveaux d'intensité ou de précision différents, trouver mon centre d'équilibre ou de tangage, pour poser mon écriture, la stabiliser ou risquer, au contraire, son envol.
Les romans d'Assia Djebbar traitent de l'histoire algérienne, de la situation des femmes et des conflits autour des langues en Algérie. La guerre, la mort, courent en filigrane dans son œuvre où vibrent les corps, la lumière, les rythmes et les sons. Voici un premier extrait tiré des Nuits de Strasbourg, publié en 1997 aux éditions Actes Sud, La fécondation des palmiers dattiers.
Pourquoi, répète-t-elle, ai-je l'envie de parler des palmiers d'autrefois ? Au début du printemps, au moment de la fécondation, jusqu'à mes 10 ou 11 ans, ma mère m'envoyait durant les vacances scolaires dans l'oasis où vivaient encore les frères, les neveux et les cousins de mon père. Elle ne venait pas, elle, ou si rarement. Et moi, chez Djedi, que j'ai perdu à 20 ans, je ne vais désormais là-bas que pour des séjours très courts, c'était la fête, la liberté. Elle s'arrêta, rêva si bien qu'elle suspendit ses gestes, ses frôlements, s'absenta un instant, engloutit si loin et en arrière. C'est alors la reviviscence des plantes, des arbres, des moindres pousses. C'est le temps des amours pour les palmiers. Elle demandait sérieusement, « Un palmier, tu sais comment se fait sa fécondation ?»« Je sais seulement, répondit-il, que le palmier dattier a un nom en botanique, et c'est le phénix. » Le phénix, s'étonna-t-elle, l'oiseau de renaissance ? Exactement, dit-il, celui qui va jusqu'en Haute-Égypte, à Héliopolis, pour mourir et renaître de ses cendres. Ce n'est pas par hasard, rêva-t-elle un instant. Puis elle se replongea dans son enfance. Dans une palmeraie, il y a beaucoup d'arbres femelles et seulement quelques arbres mâles. À l'état sauvage, m'a-t-on dit, mais ensuite je l'ai vérifié dans Pline l'Ancien, au temps de la floraison, là-haut, au sommet des palmes, c'est le vent qui, faisant ouvrir les fleurs, envoie la poussière de cette efflorescence vers les arbres femelles. Moi, ce qui me fascinait enfant, c'était comment, en ce début de printemps, les hommes de l'oasis aidaient à la copulation. C'étaient toujours les deux ou trois jeunes gens les plus vigoureux qui grimpaient prestement le long des stupes mâles, un sac sur le dos. Ils détachaient délicatement là-haut la semence qu'ils conservaient dans leur sac. Je restais la tête levée pour admirer comment les jeunes grimpeurs redescendaient, chacun d'eux comme un danseur se fichant sur une palme qui se déploie en arc de cercle, s'inclinant peu à peu jusqu'au sol. C'est ainsi qu'ils se laissent glisser, presque voluptueusement. Le plus dur reste à faire alors. Regrimper sur chaque arbre femelle et de la main entrouvrir en son sommet chaque fleur. Le faire ainsi 10, 20, 30 fois pour chaque arbre dont les régimes s'alourdiront au moment des premières chaleurs, des fameux fruits d'or.
Tout au long de ses ouvrages, Assia Djebbar ne cesse de dénoncer la condition des femmes musulmanes en Algérie et milite pour leur liberté. Voici donc deux courts extraits sur ce thème. Le premier est tiré de « Nulle part dans la maison de mon père », publié chez Fayard en 2007. Livre où elle raconte son enfance et ses souvenirs personnels. Voici « La bicyclette ». Une scène dans la cour de l'immeuble pour instituteur me reste toutefois comme une brûlure, un accroc dans l'image idéale du père que malgré moi, sans doute parce qu'il est irréversiblement absent, je compose. Cette cour, assez large, est séparée de la rue. Notre immeuble se dresse dans le centre même du village, face à la mairie et au kiosque, sur une placette, devenue le cœur de la vie publique européenne, dans ce bourg de colonisation datant environ d'un siècle, au pied des sommets de l'Atlas, qui, après avoir été le lieu des combats de la conquête française, allait bientôt se renflammer une décennie plus tard. Dans cet enclos, donc presque privilégié par sa paix, devenu un havre pour nos jeux, nous, enfants d'instituteurs, jouions là, dans l'ignorance provisoire de nos différences. J'avais le droit d'y rester une heure au plus chaque soir, mais des heures entières parfois les jeudis et dimanches. Nous lancions tout bonnement la balle contre le mur, mue par une émulation consciencieuse. Quelquefois, c'était le jeu de la marelle, plaisir simple dont il ne me reste aucune scène particulière, seulement le charme de la répétition avec quelques criailleries de joie ou de déception. Mais lorsque je voulus à mon tour, à 4 ou 5 ans, je ne sais plus, apprendre à monter à vélo, de ce passé, quelque chose vrille dans ma mémoire, devient blessure, griffure. Aidée du fils de l'institutrice, une veuve, notre plus proche voisine, j'ai ce jour-là enfourché une bicyclette et après quelques tentatives timides, je me suis sentie prête à garder presque seule l'équilibre. Je ne me souviens même pas d'être tombée ou d'avoir eu peur. Mon cœur bat, certes, je vais être autonome. Bientôt, comme les autres, j'irai faire un tour d'abord dans cette cour, puis à travers le village, libre et volant, m'envolant. Mais je rêve déjà. J'ai dû tomber une première fois, je remonte. Je suis résolue, têtue. Je suis sûre que je vais maîtriser seul cet engin. Le garçon qui m'aide d'un bras, contrôlant la poignée de la machine, m'encourage doucement. Sur ce, mon père apparaît, revenant du village. Je le vois, je continue à braquer la roue. Il a fait comme s'il ne me regardait pas. Il a marché d'un pas vif jusqu'à l'escalier qui conduit aux appartements. De là, il s'est retourné à peine et d'une voix métallique, il m'a appelé par mon prénom, sans plus. Je n'ai même pas cherché à lui dire « Attends, je ne vais pas descendre tout de suite. Sois spectateur de ma victoire. Dans un instant, tu vas me voir tenir seul, en équilibre, sur la machine. » Le père a répété encore plus haut mon prénom. C'était vraiment un ordre. Surprise, déçue, je suis descendue du vélo. Je n'ai rien dit au garçon français, même pas « merci » ou « je vais revenir, attends ». Je me vois monter en silence, l'escalier derrière mon père, qui, lui, entre en trombe dans l'appartement, me tient la porte, la referme, puis s'exclame, comme si la phrase qu'il profère, il l'a portée en lui depuis son entrée dans la cour. « Je ne veux pas, non, je ne veux pas », répète-t-il très haut à ma mère, accourue et silencieuse. « Je ne veux pas que ma fille montre ses jambes en montant à bicyclette. » Puis, sans attendre, il rejoint leur chambre, qui, lorsqu'il est là, devient le lieu inviolable du couple que forment mes parents, aussi bien pour moi que pour ma grand-mère, ici comme l'ombre absente de ce souvenir qui m'écorche.
Pour terminer, je vous propose un extrait d'Ombre sultane, publié en 1987 chez Albin Michel. Il s'agit de l'enfermement d'une femme chez elle et de son désir de sortir dévoilée. Voici, il s'intitule « Au dehors, nu ». Surgissant au dehors, tu sens peser sur ton dos le regard du concierge. Tu dévales la première pente de la première rue, faisant halte sous un balcon. Tu reprends ton souffle. Tu reprends une respiration normale. Depuis que tu as claqué la porte, la peur te mord, comme si c'était ta première évasion. Tu sors un mouchoir sous ton voile. Tu t'essuies le cou, le front, les joues. Il ne fait pas chaud malgré l'éclat de la lumière. Une brise fait mouvoir des jeux d'ombre sur les murs. Quelqu'un derrière une persienne laisse chauffer une théière infusée de la menthe. Rue désertée, presque un sentier de village. Tu marchais à l'ombre, tu vas au soleil. Si les rayons t'enveloppaient les bras, te pénétraient aux aisselles, si, sous la laine usée du haïk, ta robe de coton mauve était chancrée jusqu'à la poitrine, avec des manches pointant au-dessus des épaules. Tu l'as choisie pour ses plis, qui tombent jusqu'à mi-mollet, qui te laissent la démarche non entravée. Ta main tâte le tissu. Tu as débouché dans une avenue encombrée de voitures, de bus bondés qui peinent en sens inverse. « Je traverse, là, après !» Tu te concentres, brusquement tu cours pour traverser. Une automobile ralentit en grinçant, une injure d'homme suivie d'un rire. Tu ne te retournes pas, éperdu de confusion. Tu t'enfonces dans une ruelle entre des rangées de maisons avec des jardins ceinturés de hauts murs. Après, là, tu te décides avec violence, enlever le voile, comme si tu voulais disparaître ou exploser. À un carrefour poussiéreux, deux garçons d'une dizaine d'années en culottes courtes et chaussés d'espadrilles arrivent à ta hauteur. Ils se pressent, ne te remarquent pas. L'un se retourne un instant négligemment, l'autre porte avec raideur sur la tête un cou fin couvert de linge. La laine du voile glisse sur ta chevelure tandis que tu ralentis le pas. Tu te représentes ta propre silhouette, tête libre, cheveux noirs tirés. La tresse qui faisait des plis sous le tissu pointe à son tour. Tu as un sursaut du torse. Tes mains vont à ton col. Elles tremblent. Dehors, ô Dieu, ô doux envoyé de Dieu. Tu marches, tu sautilles. Ton pied s'arrête. D'un mouvement bref de danseuse, tu secoues une épaule. L'autre, d'un coup, la laine tombe sur tes hanches, dévoile ton corsage. La laine du suaire. Le tissu est maintenant amoncelé autour de ta taille. Ton pied reste en arrêt, l'autre arc-bouté sur la pointe. Ton cœur palpite. Ta main droite tire alors l'étoffe, en fait un tas qui traîne jusqu'au sol. Tu avances de nouveau, seulement d'un pas. Tu t'arrêtes sous un arbre. L'exubérance des parfums t'agresse. L'aubépine de la haie, puis une herbe sauvage que tu ne reconnais pas. Une profusion de senteurs, douce ou acide, t'enveloppe, te retient. Enfin, tes bras en action plient le voile. En deux, en quatre, en huit, la flaque de soleil s'est étalée. Elle envahit la ruelle. Tu mets le haïk sous le bras. Tu avances. Tu t'étonnes de te voir marcher d'emblée, d'un pas délié, sur la scène du monde. La ruelle dessine d'autres méandres. De ta main libre, tu touches ta natte sur la nuque. Tu vérifies la barrette qui retient tes cheveux. Tu ne veux pas te hâter. Tu vas te présenter au regard de tant d'inconnus, tous ceux que Dieu mettra sur ton chemin. Dehors et nu, l'émotion te submerge. Tu tentes d'éteindre ta panique. Les hommes de ma famille, l'oncle, le frère, les trois cousins paternels qui viennent une fois par an de leur ferme éloignée, tous détourneraient les yeux avec respect. Ils se diraient que mon mari m'a fait enlever le voile. Sortir nu, songes-tu? Voilà que l'enfance revient. Ô pierre noire de la Mecque, pour un peu, tu te sentirais suffoqué. C'est l'ivresse, tout simplement.
Nous espérons vous avoir donné envie de vous plonger dans tous les romans d'Assia Djebbar. Merci Daniel pour ces lectures.
Au revoir et merci de votre fidélité à l'écoute de Canal Académie.